Rebonjour à chacun et à chacune. Je me souviens que la dernière fois que j'étais à La Chaux-de-Fonds, c'était lors du départ à la retraite d'Alain et d'Yvette. Mais quelques années auparavant, Alain m'avait invité un jour des rameaux pour apporter le message. Mais ça remonte déjà à quelques années. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des frères et sœurs et de pouvoir partager la parole avec eux. En quelques mots, donc mon épouse et moi-même, nous sommes vaudois. Ma femme est de Vevey, moi je suis de Blonay. Et le Seigneur nous a appelés, alors que nous étions encore jeunes, à le servir. Et ensemble, nous avons fait l'école biblique IBTI en Angleterre. Et puis ensuite, pendant 18 années, nous avons servi le Seigneur en France, dans les assemblées de Dieu. Et en 86, le Seigneur nous a appelés à revenir en Suisse avec nos 4 enfants. Et nous avons servi le Seigneur à Lausanne, dans l'église de Pentecôte de Lausanne, jusqu'en 99. Et en 99, comme nous étions de la région, le Seigneur nous a ramenés et nous sommes maintenant donc à Vevey. Et en 99, j'ai repris l'église de réveil de Vevey à la suite de Walter Zanzen, qui lui est parti sur Genève. Voilà. Et puis depuis 2010, eh bien, voilà, je suis à la retraite et content d'être à la retraite. Voilà. Après 42 ans et demi de ministère, ça fait du bien quand on peut tout simplement, non pas arrêter complètement de servir le Seigneur, mais de le servir d'une autre manière, d'une manière un peu plus allégée, sans avoir la responsabilité du troupeau, et d'organiser le programme et de suivre chacune des brebis du mieux qu'on peut. Alors voilà, c'est une autre manière de servir le Seigneur, mais on a bebeaucoup à faire parce qu'on a 10 petits-enfants. Alors ça nous donne pas mal de travail. Je lirai avec vous ce matin dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, et on va lire ensemble les versets 18 jusqu'au verset 30. Romains 8, verset 18. J'estime, écrit Paul, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. J'ai intitulé mon message « Gémissement et espérance ». Il y a une tentation qui guette parfois le chrétien charismatique, celle de croire qu'il va être épargné de toute souffrance, de la maladie. Car à partir du moment où ce chrétien croit que Jésus a porté son corps sur la croix, ses péchés et ses maladies, il ne devrait alors plus connaître de temps de faiblesse, de maladie, de souffrance. Nous savons, la réalité est bien différente. Et Paul, dans ce passage des Romains, prend très au sérieux la souffrance et il ne cache pas qu'il nous arrive de gémir, de soupirer dans notre vie chrétienne. Mais au-delà de la souffrance et des gémissements que nous pouvons avoir, Paul élargit notre vision de ce problème. Il écrira, « Je ne suis pas seul à souffrir. Toute la création gémit et souffre. » Il dira même que ceux qui ont reçu les prémices de l'Esprit, vous et moi, peuvent gémir. Et puis, il ajoutera, l'Esprit lui-même gémit. Il intercède par des soupirs ou des gémissements inexprimables. Paul ne reste toutefois pas enfermé dans la souffrance. Il propose une espérance. Une espérance, c'est toujours mieux qu'une explication. Nos contemporains cherchent et voudraient des explications. Pourquoi le mal? Pourquoi telle souffrance? Pourquoi, quand ça nous atteint personnellement, pourquoi moi? Est-ce que ça vous est arrivé de vous poser ces questions? Pourquoi moi? Par exemple, j'ai lu, en préparant ce message, qu'une dame hospitalisée pour la énième fois expliquait ses souffrances par la réincarnation. Elle disait, dans une vie précédente, j'étais princesse et je n'avais pas su faire preuve de compassion. Elle en subissait donc les conséquences dans cette vie. Bon, faites-en ce que vous voulez, mais moi ça ne me satisfait pas beaucoup et ça ne me donne pas d'espérance. Parce que si je suis appelé dans l'au-delà à expier encore les fautes que j'ai commises, en me réincarnant dans une souris ou dans une vache. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'espérance là. Hein? Non, l'apôtre Paul nous montre que vouloir toujours des explications, c'est se tourner souvent vers le passé, tandis que l'espérance est tournée vers l'avenir. Pour Paul, il est clair que dans ce passage, il nous dit qu'il va de l'avant, et il va vers la liberté, il va vers la gloire, il va vers la ressemblance avec Jésus. Il reconnaît néanmoins lucidement et honnêtement que le salut n'est pas encore manifesté pleinement dans le monde et que jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu se fait très, vous en conviendrez. Il y a des pays où le royaume de Dieu grandit, se manifeste avec puissance et autorité, mais dans notre monde occidental, le salut, le royaume de Dieu, je dirais, ne se manifeste pas de la même manière. Nous reconnaissons donc avec Paul qu'il y a collision entre ce que le monde nous donne à voir, tel qu'il est aujourd'hui, et les promesses de la parole de Dieu. Si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, avec le monde, avec les textes, nous ne pouvons pas sauter à pieds joints par-dessus cette tension. Le royaume de Dieu n'est pas encore pleinement manifesté dans notre monde. Nous devons accepter cette tension, nous devons l'endurer, a écrit un théologien mennonite, Pierre Buller. Nous devons accepter cette tension, nous devons l'endurer, même si elle vient nous mordre, nous blesser, l'endurer jusqu'à ce qu'elle puisse être assumée dans la foi. Nous avons été sauvés, oui, alléluia, mais c'est en espérance. Le salut n'a pas encore déployé tous ses effets ici-bas. Raison de plus, donc, pour espérer. Et à partir de l'espérance que Christ dépose dans nos cœurs, Paul développe une nouvelle compréhension de la souffrance. Elles sont comprises comme les douleurs de l'accouchement, comme les contractions qui vont déboucher sur une vie nouvelle. Il dira au verset 22, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et toute la création est appelée, au travers de ces douleurs de l'enfantement, elle est appelée à renaître lorsque la malédiction sera ôtée de cette terre. On va prendre quelques mots clés de ce passage. Il y a tout d'abord le mot « souffrance ». Paul en parle. Il dira que la création souffre, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il dira que nous les hommes, eh bien, nous souffrons aussi parce que nous sommes sauvés seulement en espérance et que nous sommes encore dans ce corps de chair qui nous fait souffrir souvent. Peut-être qu'en lisant ce texte, on peut penser que Paul minimise les souffrances humaines dans un élan de foi très spirituel, théorique, voire désincarné, quand il écrit au verset 18, et ça c'est un verset que j'ai eu beaucoup de peine à assumer pour ma part, « J'estime, écrit-il, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Parce que nous n'avons qu'une connaissance théorique de cette gloire à venir. On en parle, on l'attend, mais dans cette attente, Paul dira, les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer avec la gloire à venir. Je ne sais pas si celui qui passe par la souffrance lors de la perte d'un être cher, lors d'une maladie incurable qui va le conduire inexorablement vers la mort, à moins que le Seigneur intervienne et qu'il y ait miracle, je ne sais pas si celui qui traverse ces temps de souffrance peut dire, comme l'apôtre Paul, qu'il n'y a pas de commune mesure entre sa souffrance et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je ne sais pas s'il peut le dire. Pas de commune mesure entre la souffrance présente et la gloire à venir. quand on est en plein dans la souffrance, quand on est en plein dans le questionnement, quand on est en plein dans le corps qui fait mal ou l'âme brisée, pouvoir dire, Seigneur, ce que je vis, ce que je ressens, mes souffrances, c'est rien en comparaison de la gloire à venir. Il faut beaucoup de foi, n'est-ce pas, pour dire cela. Eh bien, oui, il semble que Paul, il écrit cela dans un élan de foi extraordinaire, presque désincarné. Mais non, 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 parce que Paul s'empresse d'ajouter que non seulement des hommes, des femmes peuvent souffrir, mais il dira que la création tout entière, y compris nous qui avons reçu l'Esprit, eh bien nous gémissons et nous soupirons. Paul, on le sait, lui aussi a traversé beaucoup de souffrances et il a certainement soupiré et gémi plus que nous tous. Tous les différents maux qui lui sont arrivés, les malheurs qui lui sont arrivés et qui nous sont arrivés également pourraient nous faire croire parfois que Dieu nous a abandonnés. Et pourtant, Dieu ne nous abandonne jamais. On sait que Paul, dans la description de toutes les détresses et de toutes les souffrances qu'il a traversées, il nous montre d'une manière certaine qu'il a connu, au-delà même de ce que nous pouvons souffrir, énormément de détresse. Je lis tout simplement un texte dans 2 Corinthiens qui illustre ce qu'il a vécu. Très simplement, il dira « Nous nous rendons recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie. » Ailleurs, il ajoutera, toujours dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, il décrira tout ce qu'il a souffert. Verset 22, 2 Corinthiens 11, 22. Il dira, sont-ils serviteurs de Dieu, tous ceux qui l'accusent, parce que souvent c'est tous ceux qui l'accusaient. Il dira, je parle en termes extravagants, mais je suis plus encore, c'est moi, serviteur de Dieu, descendant d'Abraham, israélite, hébreu, né d'hébreu. Il dira, je le suis bien plus encore, mais par les travaux, par les emprisonnements, par les coups, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois plus que Jésus. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé en danger, sur les fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, aux frères, au travail et dans la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Donc, il peut parler de la souffrance. Il peut parler des gémissements. Il sait ce que c'est. Il a vécu, au-delà de ce que nous pouvons même connaître et vivre, les souffrances que rencontrent les chrétiens aujourd'hui encore. Et ces souffrances sont tout simplement elles sont tout simplement la caractéristique du peuple de Dieu. Nous gémissons, dira l'apôtre. Nous gémissons, nous sommes dans l'attente de cette vie nouvelle, de cette libération. Hein, nous sommes dans cette attente, nous gémissons. Et je pense à souvent, puisque je m'intéresse beaucoup aux chrétiens persécutés, je pense souvent à eux. Je pense souvent à ceux qui sont emprisonnés à cause de leur foi. Je pense souvent à tous ces chrétiens d'Irak qui ont dû fuir devant l'avance de l'EI et qui ont tout laissé, tout perdu, et qui maintenant que le territoire est libéré, retournent dans leur village et découvrent que tout a été détruit. Les croix ont été profanées. Les églises ont été détruites, leurs maisons ont été détruites, ils n'ont plus rien. On comprend qu'ils gémissent et qu'ils soient dans l'attente de la rédemption, du salut et du royaume de Dieu qui doit venir. Mais Paul ne reste pas dans les gémissements. Il dira qu'au-delà des gémissements, il y a un mot qui revient constamment, c'est ce mot « espérance ». Parce que nous allons, frères et sœurs, nous allons vers la gloire. Cette gloire, elle existe déjà dans le Christ ressuscité. Et même, d'une certaine façon, elle existe dans le chrétien, puisqu'il contemple et reflète la gloire du Seigneur. Il y a un texte qui dira qu'on est changé de gloire en gloire, qu'on est transfiguré de gloire en gloire en contemplant le Seigneur. Et je pense que les moments de louange personnels, collectifs, sont des moments où voilà, nous nous laissons comme visités par la gloire du Seigneur, où nous nous laissons transformer par sa présence et par son esprit. Dans 2 Corinthiens 3, 18, l'apôtre nous dira ceci, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Jean Chrysostome, qui était un père de l'Église grecque au IVe siècle, a commenté ce verset de cette manière. En décrivant la gloire bien à venir, l'apôtre indique pourtant qu'elle est déjà présente, car il ne dit pas auprès de la gloire qui doit être, mais auprès de celle qui doit être révélée. Elle existe donc, elle existe déjà, mais elle est cachée. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tends-la donc avec confiance, elle est déjà toute prête, cette gloire, elle attend tes souffrances. Ne t'afflige pas de ce qu'elle tarde encore, mais réjouis-toi à la pensée qu'elle est si grande, si ineffable, qu'elle dépasse infiniment l'économie du temps présent, et que c'est pour cela qu'elle t'est réservée là-haut. Ça, c'est une parole de Jean Chrysostome, père de l'Église, au IVe siècle. Donc, nous allons vers la gloire. Nous allons aussi vers la liberté. Et la création tout entière va profiter de cette liberté. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est Dieu qui l'a soumise à la vanité, à cause du péché d'Adam, mais avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc nous allons vers la liberté. Toute la création va en profiter. Cette rédemption de l'homme, comme la rédemption, la délivrance de la création, elle a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Bien sûr, il y a dans les textes d'Ésaïe des passages qui montrent que bien voilà, la malédiction sera retirée de la terre. Le loup paîtra avec l'agneau. Le serpent ne mordra plus. Il y aura des textes comme ça qui montrent que la vanité, la malédiction sur cette terre sera ôtée et nous attendons ces temps nouveaux, cette nouvelle terre, cette nouvelle création. Et juste un petit clin d'œil à l'écologie, si le Seigneur est prêt à ôter la malédiction de la création, est-ce que ce n'est pas un petit appel qu'il nous adresse à déjà respecter la nature et l'environnement et à adopter un comportement écologique? Puisque la nature aura droit à une rédemption, tout comme nous, alors comme nous prenons soin de notre corps, prenons soin de la nature. Amen. Nous allons vers la gloire, nous allons vers la liberté et nous allons vers une naissance. Et on a lu ce texte, n'est-ce pas ? Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et cette superbe image de l'accouchement donne un sens aux souffrances du temps présent. Ces souffrances déboucheront sur une vie nouvelle. Comme la mère en travail d'enfantement, elle souffre pour mettre au monde l'enfant qu'elle a porté en elle. Ainsi la nature lutte sous les étreintes de la mort et de la malédiction afin de produire une création nouvelle et glorieuse qui doit sortir au jour marqué par la révélation des enfants de Dieu. Nous allons vers la gloire, nous allons vers la liberté, nous allons vers cette naissance nouvelle de la création, et puis nous allons vers cette révélation entière et notre statut de fils et fille de Dieu. Verset 19 nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le Saint-Esprit, dans nos cœurs, atteste déjà que nous sommes fils et filles de Dieu. Mais cette réalité n'est perceptible que par la foi. Déjà fils, oui, nous le sommes, mais pas encore révélés comme tels. Voilà la condition des croyants. Entre le déjà accompli et le pas encore manifesté, eh bien, c'est l'Esprit qui vivifie en nous l'homme intérieur. Alors que le royaume est seulement futur pour l'ordre extérieur du monde, dont nous sommes solidaires par notre corps, eh bien, l'Esprit nous vivifie, l'Esprit nous renouvelle, l'Esprit nourrit notre être intérieur, l'Esprit renouvelle notre foi, et même au sein de la souffrance, eh bien, nous pouvons avoir cette espérance qui est renouvelé, qui est fortifié, qui est vivifié par l'action du Saint-Esprit. L'apôtre dira d'ailleurs que notre corps extérieur passe, se désagrège au fil du temps et notre corps attend sa rédemption. Et toujours dans 2 Corinthiens 4, il y a ces images merveilleuses de ce qui attend, nous attend en tant que chrétiens. Il dira, Paul, nous ne perdons pas courage. Même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. On retrouve cette même notion. Hein, qu'au-delà de nos légères afflictions du moment présent, eh bien, cela produit pour nous, au-delà de toute mesure, choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, les invisibles sont éternelles. Verset 2 du chapitre 5, on retrouve aussi cette même notion. Nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, vêtus du vêtement du salut. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Nous sommes donc, frères et sœurs, portés par l'espérance. L'espérance nous porte. L'espérance, c'est comme une ancre qui est accrochée à la parole de Dieu. Elle est accrochée au Christ, au rocher, rocher des âges. L'espérance, c'est cette ancre qui nous permet de rester ferme, de rester debout. Cette ancre qui nous permet de ne pas être ballotté au gré de nos doutes et de nos hésitations et de nos craintes et de nos peurs. L'espérance nous tient accrochés au rocher qui est Christ. Ce matin, je vous invite à ne pas vous attacher ou vous arrêter sur vos faiblesses, sur vos peines, sur vos craintes, sur vos souffrances présentes, peut-être sur vos gémissements. Parce qu'au sein de ce que vous vivez, eh bien, sachez que l'Esprit vient en aide à notre faiblesse. Il soupire, l'Esprit, avec des gémissements inexprimables. Il soupire. Il vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons parfois pas comment prier. Alors l'Esprit prend le relais. Il intercède par des gémissements inexprimables. Il connaît les intentions de Dieu. Il sonde les pensées de Dieu et sa volonté. Et il nous inspire dans notre vie de prière. Oui, il y a des gémissements, il y a de la souffrance dans notre monde, il y a de la souffrance peut-être dans ta vie ce matin, il y a de la souffrance dans la nature, il y a de la souffrance chez beaucoup de chrétiens, mais au-delà de cette souffrance, ou je dirais même au centre de cette souffrance, il y a cette formidable espérance. Qu'au-delà du vécu difficile que traverse parfois l'enfant de Dieu, il y a un poids éternel de gloire qui l'attend. Vous me direz, c'est très abstrait. Je dis oui, c'est très abstrait et c'est pourtant réel. Ce poids éternel de gloire qu'on a de la peine à appréhender, à saisir véritablement. Mais je ne crois pas qu'il faut chercher dans les choses supra-spirituelles ou extraordinaires. Moi, je crois tout simplement que quand un chrétien peut fermer les yeux dans son dernier souffle et dire... parce qu'on ne l'a pas trop shooté à la morphine, hein, ou un peu avant qu'il parte, dire « Seigneur, je sais que je vais vers toi. » Auprès du personnel médical, c'est de la gloire, ça. C'est quelque chose de glorieux. Parce que tout le monde ne peut pas le dire. « Seigneur, je sais que je vais vers toi. » C'est un témoignage très fort. Et ça, je crois que c'est déjà la gloire qui est là manifestée. Ce matin, je vous invite à déposer peut-être votre souffrance, quelle qu'elle soit, au pied du Seigneur. lui abandonner peut-être vos gémissements, vos questionnements. Et de quelque ordre que soit votre souffrance, physique, morale ou spirituelle, on sait que c'est au pied de la croix qu'on recevra l'aide et le secours dont nous avons besoin. Alors, n'hésitons pas à venir au pied de la croix et à déposer au pied du Seigneur tout ce qui ce matin nous questionne, nous attriste, cause des gémissements. Le Seigneur sait, il sait toutes choses et il va gérer la situation beaucoup mieux que nous-mêmes. Amen.